COVID, ça se corse dans les CHSLD. Là, on a vu cette histoire en fin de semaine. Une vingtaine de résidents infectés à la COVID qui ont été transférés d'un CHSLD à un autre CHSLD. Ça se passait en Montérégie. Et puis, on sait aussi là qu'il va y avoir, c'est une vingtaine de résidents qui étaient dans un CHSLD de l'ouest de l'île, qui vont être transférés maintenant dans deux centres hospitaliers différents, l'Hôpital Juif et l'Hôtel Dieu. Le docteur David Lucier, gériatre à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Bonjour, David.
Bonjour.
D'abord, le transfert là, de patients atteints de la COVID, soit vers un autre CHSLD ou vers un hôpital, est-ce que c'est une bonne idée?
Absolument. On essaie de garder les résidents dans leur milieu parce que c'est avec le personnel qu'ils connaissent, c'est le milieu qu'ils connaissent. Donc, c'est certain que si on peut le faire, c'est mieux de les garder dans leur milieu. On les transfère habituellement dans un hôpital, surtout si ils ont une condition médicale qui est trop sévère, qui ne peut pas être traitée sur place dans le CHSLD, et que eux, selon ce qu'on appelle le niveau de soins, donc selon leur désir, ils veulent être transférés puis être traités dans un hôpital. Donc, maintenant, ce qui semble se produire, c'est que comme c'est très difficile de contenir l'éclosion à l'intérieur du CHSLD, on les transfère ailleurs pour que ce soit plus facile d'arrêter la transmission, finalement, à l'intérieur des murs du CHSLD.
Donc, l'idée, quand on les transfère, c'est de sauver ceux qui restent, si je peux m'exprimer ainsi. Là, dans le fond, sauver ceux qui n'ont pas été infectés, soit chez les patients, soit chez les employés.
Ben, il y a deux raisons. Ça peut être pour sauver la personne elle-même, si on peut s'exprimer ici, là, c'est-à-dire pour la traiter avec les soins dont elle a besoin dans un hôpital, ou sinon, oui, ça peut être pour empêcher que ça se transmette aux autres qui sont encore sur place.
OK. Moi, ma réaction, David Lucier, veut pas, je me suis dit, est-ce qu'il risque pas de contaminer l'endroit où on va les déménager?
Ben, en fait, il y a deux choses. À l'Hôtel Dieu, c'est... Maintenant, c'est considéré comme ce qu'on appelle un site non traditionnel. Il n'y a plus de patients à l'Hôtel Dieu depuis des années, hein, depuis que le CHUM a été ouvert. Mm-hmm. Donc, l'Hôtel Dieu, ça a été réouvert dernièrement pour avoir une zone chaude à l'Hôtel Dieu. C'est exactement ça, son rôle à l'Hôtel Dieu.
C'est devenu comme un hôpital COVID, dans le fond.
Exactement, oui. C'est ça. C'est un hôpital COVID, mais pas pour des patients qui nécessitent des soins intensifs. C'est surtout pour des patients qui n'ont pas besoin de soins très, très intenses, mm-hmm. mais qu'on ne veut pas garder dans leur milieu.
D'accord.
Par exemple, il y a des comme des CHSLD où il y a parfois des résidences privées pour aînés où ils ne sont pas équipés pour avoir des zones chaudes ou froides. Si c'est une petite résidence, par exemple, il y a des résidences de groupe, hein, il y a des gens qui sont 5-6, mais qui cohabitent dans les mêmes espaces. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas les garder là. Donc, on va les transférer ailleurs. Il y avait les hôtels COVID. Donc, maintenant, l'Hôtel Dieu, c'est un peu ça, un peu comme ça.
D'accord.
Comme il y a des arénas aussi où on fait ça, là.
D'accord. Le principal impact que ça peut avoir, c'est sur la santé mentale. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui est déjà fragile psychologiquement, que peut-être qui est secoué, qui est affaibli, qui n'a pas beaucoup de famille autour de lui, autour d'elle, le déménagement pourrait l'abattre psychologiquement, non?
Quelqu'un qui est en CHSLD, la très, très grande majorité ont des problèmes cognitifs, là, des problèmes de démence. Donc, c'est certain que n'importe quel changement de milieu, ça peut les affecter. Ils peuvent devenir plus confus, plus agités. Mais si ça permet d'être dans un milieu avec plus de personnel, parce que c'est ça l'autre problème aussi, c'est l'autre raison pour laquelle parfois on transfère les gens, c'est que si dans l'établissement en question, ils n'ont pas assez de personnel parce qu'il y a trop de personnel malade, habituellement les deux vont ensemble, mm-hmm. beaucoup de résidents infectés, beaucoup de personnel infecté, donc là on peut les transférer à un endroit où ils vont y avoir le personnel adéquat parce qu'ils viennent d'un peu partout. Donc, ça pourrait être une raison aussi. Puis à ce moment-là, s'ils ont plus de personnel pour s'occuper d'eux, bien, ça peut avoir un effet bénéfique qui va compenser pour le changement de milieu.
Élargissons un petit peu la discussion, Dr Lucier. Qu'est-ce qu'on fait quand on va arriver à Noël, Dr Lucier, avec les personnes qui sont en CHSLD, avec les personnes qui sont en résidence pour aînés ou en ressources intermédiaires? Est-ce qu'il vaut mieux les laisser sur place puis aller les visiter? Est-ce que dans certains cas, on pourrait les sortir de la résidence où ils se trouvent pour un souper de Noël, par exemple? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on s'organise pour le retour par la suite? Avez-vous une réflexion là-dessus?
Si le ministère décide de permettre les sorties à l'extérieur des CHSLD, il faut que la personne s'attende à être en isolement pendant 2 semaines après dans sa chambre. Pour les résidences privées, c'est sûr que c'est plus difficile à contrôler puis à interdire parce que c'est des gens qui sont autonomes, qui entrent et qui sortent comme ils veulent. Donc, mais il va falloir aussi qu'il y ait beaucoup de précautions qui soient prises si les gens ont des contacts, parce que quand ils vont revenir dans la résidence, même s'ils sortent seulement pour un souper, s'ils voient beaucoup de gens, il y a un risque de devenir positif et après ça, d'infecter beaucoup de personnes dans la résidence. On le voit, il y en a beaucoup. Puis c'est vraiment, on le voit très bien si on regarde ce qui se passe au lac Saint-Jean actuellement. C'est là où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de résidences qui sont affectées. Il y a des jours où il y en a 25-30 nouvelles infections dans une résidence parce que c'est un vase communicant avec la communauté qui est à côté.
Vous avez vu les cas confirmés ces derniers jours. Là, ça roule autour de 1400 quelques, près de 1300, près de 1400. Bon, aujourd'hui, 1333, on était à presque 700 hospitalisations. Est-ce qu'à votre avis, l'idée de maintenir des rassemblements à Noël, c'est une bonne idée ou est-ce que le premier ministre ne devrait pas annuler les rassemblements à Noël?
C'est une question qui est très complexe. C'est sûr que maintenant, ça semble s'empirer plutôt que s'améliorer. On aurait voulu que ça s'améliore avant le congé des fêtes, mais ma position, ça a toujours été un peu la même, c'est-à-dire que moi, j'ai vraiment l'impression que les gens vont se réunir quand même à Noël, que le gouvernement le permette ou pas, à moins qu'il y ait vraiment une surveillance très, très, très étroite. Donc, de le maintenir, mais avec des restrictions et le moins possible, ce serait vraiment l'idéal.
Dr. David Lucier, gériatre à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Alors là, on part du CHSLD et on arrive à l'hôpital où on va rejoindre le Dr. François Marquis, chef des services en soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Bonjour François.
Bonjour.
Donnez-nous une idée des mesures qu'un hôpital doit prendre pour éviter que le patient COVID vienne infecter la place.
Bien, la première des choses, hein, c'est de ne pas improviser. Puis je pense que ça a été bien fait de ce côté-là. Donc, on passe par la santé publique. Et après ça, on ne fait pas juste mettre tout le monde dans un autobus, là, puis go, on s'en va à l'hôpital. Il faut comprendre, c'est que particulièrement dans le cas de notre crise de COVID, les lits disponibles dans les différents hôpitaux de toutes les régions, que ce soit autant au niveau des soins intensifs que des lits qui sont dans des zones sécuritaires pour accueillir des patients COVID, ces chiffres-là sont connus en temps réel et sont mis à jour plusieurs fois par jour. Donc, le gouvernement, la santé publique est en mesure de savoir, par exemple, que j'ai tant de lits présentement disponibles à Maisonneuve-Rosemont, j'ai tant de lits présentement disponibles dans le Sud, et ce, pour tous les hôpitaux désignés du Québec, puis ils commencent à en avoir beaucoup. Donc, à partir de là, et ce qu'ils font, c'est qu'ils organisent le transfert et ces patients-là passent d'une zone chaude à une zone chaude, oui, en minimisant le contact avec tout le monde. Donc, ils ont une espèce de canal prioritaire et comme ça, on évite là, qu'ils soient mis dans des salles d'attente, on évite qu'ils soient mélangés avec les autres patients. Fait que ça, c'est ce qu'on fait pour la COVID. Mm-hmm. Naturellement, plus on veut évacuer un grand nombre de personnes en même temps, plus c'est complexe au niveau de la logistique. Ça peut vouloir dire que certains se retrouvent dans un hôpital, certains se retrouvent dans l'autre. Et c'est pour ça là, qu'il y a, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, là, deux hôpitaux qui ont été sollicités.
Est-ce que tu as dû gérer ça, toi? Est-ce que tu as vu arriver des patients dont tu savais là, qui étaient déménagés d'un établissement de santé et qui étaient déménagés à ton hôpital, Maisonneuve-Rosemont? Est-ce que tu as connu ça?
Oh oui, ça, c'est relativement fréquent. Là. D'abord, les soins intensifs sont catégorisés par niveau de ressources et les centres plus petits envoient aux centres plus gros les patients les plus malades ou quand ils sont simplement rendus à capacité. Et ça a fonctionné pendant le gros de la première vague et encore même là, alors que c'était pas, que c'était la deuxième vague, on a eu plein de transferts interhospitaliers de patients COVID. Mais ça, c'est une mécanique qui roule relativement bien. C'est certain qu'habituellement, ils n'arrivent pas à 20 du coup. Là, faut comprendre que c'est un ou deux par jour qui peuvent arriver, mais les transferts s'organisent 24 heures sur 24. Là. Tu peux être sollicité pour un patient de soins intensifs à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Okay. Et il y a un autre docteur pour l'étage.
OK. Donc, c'est normal maintenant. Là. C'est devenu normal pour vous autres. C'est parce que, je vais te dire honnêtement, François, je disais ça en fin de semaine. Puis moi, évidemment, quelqu'un qui est COVID, je veux lui sauver la vie. Et donc, mon premier réflexe, c'est de dire, bon, ben, s'il transfère à l'hôpital, c'est pour lui sauver la vie. Très bien. C'est ce qu'on veut. On veut réduire le nombre de décès. Puis après coup, tu te dis, ouais, mais en même temps, je veux pas qu'il aille contaminer des gens qui ne le sont pas dans l'établissement qui va l'accueillir. Fait que là, tu comprends, t'es un peu comme déchiré, t'es un peu comme partagé dans ta réaction.
Pas tant que ça, parce que dans la vraie réalité, ce qu'on sait, c'est qu'il va être orienté vers un hôpital dont on sait qu'il a les ressources pour accueillir ce patient-là. Ouais, on prend pas une chance en disant, tiens, on va l'envoyer à l'hôpital X. Puis on leur donne 15 minutes d'avance en disant bonne chance, les gars. Là.
Très bien. Parle-nous des hospitalisations qui sont quand même à la hausse aujourd'hui. Là, on s'approche du 700. On sait très bien là qu'il faut pas se rendre à 1000. Si on se rendait à 1000, là, on serait en zone critique. Et par ailleurs, on voit là qu'au cours des derniers jours, là, on est toujours autour de 1300, 1400, pas loin de 1500 même le 25 novembre, cas, nouveaux cas confirmés. Toi, là, qui est sur le terrain, là, qui est sur le champ de bataille, comment tu vois les choses présentement à quoi 3 semaines de Noël, là, un petit peu plus que 3 semaines de Noël?
Bien, si on veut mettre ça simple, là, disons que ça serait le temps que le miracle de Noël arrive, là, parce que ça va en augmentant. Les dépistages vont en augmentant, c'est qu'on a des cas confirmés en communauté, mais aussi, ce qui est troublant, c'est qu'on a nos hospitalisations sont en augmentation. Les hospitalisations de soins intensifs sont en augmentation. Mm. Donc, c'est une tendance qui est extrêmement désagréable à l'aube du temps des fêtes. Parce que d'une part, plus on met de monde dans un hôpital, plus ça met de la pression dans le temps de Noël, ce qui veut dire que pour les travailleurs de la santé, il va avoir besoin de plus de personnel. Mais aussi, ce que ça veut dire, c'est que ces patients-là, quand ils rentrent à l'hôpital, c'est habituellement pour plusieurs jours. Ils ne rentrent pas pour sortir 24-48 heures après. C'est ça, la réalité. Et donc, si on est déjà en train de remplir nos lits avant le congé des fêtes, il ne faut pas se leurrer. Là. Peu importe ce qu'on fait, il va y avoir une augmentation au retour des fêtes, des cas de COVID, hospitalisations, des soins intensifs.
Ça, c'est sûr. François, la question, c'est est-ce qu'il va y en avoir trop? Et si on anticipe qu'il y en aurait trop ou qu'il y a un risque qu'il y en ait trop, est-ce qu'on décide finalement qu'il n'y a pas de rassemblement à Noël? C'est ça, la question.
C'est tout à fait ça, la question. En fait, quand on dit qu'il va y en avoir trop, faut voir les choses. C'est pas trop du genre, il n'y aura plus de lits disponibles dans les hôpitaux pour... C'est pas ce trop-là. On parle probablement plus de, il va en avoir trop pour continuer nos activités normales, tomber dans un mode première vague et tout annuler. C'est plus ça, le trop qu'on va avoir, là. Fait que c'est pas qu'il va manquer de respirateur. Mais la réalité, la question reste là. Est-ce qu'on accepte le risque des rassemblements du temps des fêtes?
Et la réponse du docteur Marquis à la question qu'il pose lui-même, c'est quoi la réponse?
Moi, je pense qu'il faut que chaque personne, tout que ce soit permis ou pas, que chaque personne se regarde le nombril puis dise, est-ce que je peux, moi, personnellement, rester chez moi, rien organiser, puis rester tranquille. C'est ça la vraie chose. C'est pas que ça soit permis ou pas par le gouvernement. C'est de se dire, comme citoyen, est-ce que moi, je vais rester tranquille pendant cette période des fêtes-là? Et moi, ma réponse à moi, c'est, je vais rester tranquille, je n'irai pas nulle part, j'ai déjà annoncé ça à tout le monde.
François Marquis, qui nous donne matière à réflexion, chef de service des soins intensifs à Maisonneuve-Rosemont. Toujours un plaisir, François.
Ça fait plaisir. Bye-bye.
Salut, bye-bye. Après la pause, une sentence exemplaire de 14 années de pénitencier a été imposée vendredi dans un dossier d'inceste. Vous n'en avez pas beaucoup entendu parler. On va parler au procureur qui était affecté au dossier. Je vous le dis, c'est vraiment une histoire d'horreur.